L'histoire de Léa et de Rachel est tout à fait passionnante. Parce qu'on a là deux sœurs, Léa l'aînée et Rachel la seconde. Rachel est aimée par Jacob et elle a toutes les qualités en fait. Elle est belle, elle est brillante. Et la pauvre Léa a vraiment le mauvais rôle. Elle n'est pas jolie, elle est envieuse, enfin elle n'est pas sympathique. Et on se demande un petit peu ce qu'elle vient faire là-dedans. Et comme par ailleurs, puisqu'on a travaillé pas mal sur les fratries dans la Bible, nous avons vu que pratiquement à chaque fois, c'est toujours l'aîné qui devrait avoir la première place, et finalement c'est le second qui lui vole tout. Et c'est toujours le second qui prend la bonne place. C'est le cas de Caïn et Abel, c'est le cas de Jacob et Ésaü, et d'autres encore. Et donc cette fois, je me demande si vraiment on pourra sauver cette pauvre Léa et lui trouver la moindre qualité. Léa semble vraiment, je dirais, enfermée là dans un second rôle peu enviable et il n'est pas très facile de s'en sortir. Alors Calvin, dans son commentaire, prétend que Léa, certes, était moins jolie que Rachel, mais qu'elle avait certainement une grande beauté intérieure et spirituelle. Bon, on peut toujours le dire. La question, c'est de savoir si vraiment on trouve ce genre d'élément dans le texte. Alors, j'aime défendre les causes perdues et j'aime essayer de défendre ceux dont tout le monde dit du mal. Et d'autre part, j'ai toujours un petit peu mon esprit en éveil quand on voit quelqu'un qui est trop rejeté. En effet, l'Évangile dit sans arrêt que beaucoup des premiers seront les derniers. Et d'autre part, dans le psaume 118, qui est le psaume qu'on lit d'ailleurs en ce jour pour la fête des rameaux, on dit « la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la principale, celle de l'angle ». Et donc je me méfie un petit peu des gens rejetés par rapport à d'autres qui pourraient sembler plus brillants. Alors reprenons le texte et regardons exactement ce que dit le texte de la Genèse. Elle dit au chapitre 29, au verset 16, « Laban avait deux filles. La grande s'appelait Léa et la petite Rachel. » Et le texte dit « Léa avait des yeux tendres et Rachel était belle de taille et belle de figure. » Donc Rachel était belle, certes, ça je l'entends bien, et Léa. Léa, le texte nous dit qu'elle avait des yeux tendres ou des yeux délicats, elle avait des jolis yeux, elle avait de beaux yeux. Et là, ça m'intéresse parce que rien que cela me semble dire quelque chose d'essentiel. C'est que l'une, Rachel, elle est belle pour être vue, et l'autre, Léa, qui a des beaux yeux, elle est belle pour ce qu'est de voir. C'est-à-dire que l'une est pour être vue, et l'autre, elle est dans l'action qui consiste à voir. Donc l'une est belle pour être vue, c'est-à-dire qu'elle a une sorte de beauté passive. Autrement dit, elle est une sorte d'objet sexuel, c'est-à-dire que Jacob, il trouve Léa, il trouve Rachel resplendissante, donc il la trouve belle, mais finalement, je ne suis pas très sûr qu'il ait eu envie de lui faire la conversation. Il la trouve jolie, c'est tout. C'est un objet, quoi. Alors que Rachel, l'autre, pardon, Léa, celle qui était moins jolie, certainement, elle a de beaux yeux, c'est-à-dire qu'elle a une beauté active et elle est belle comme un sujet et pas comme un objet. Parce qu'en effet, les objets n'ont pas de regard. Les objets n'ont pas d'yeux. Le propre du sujet, c'est-à-dire de la personne, c'est d'avoir un regard, c'est-à-dire quelque chose qui vient vers vous. Le regard de l'autre, c'est ce qui me regarde, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient vers moi, qui sort de l'autre pour aller vers moi. Alors que quelque chose de beau est peut-être totalement immobile et inanimé. Alors effectivement, peut-être que c'était ça qui était beau chez Léa, c'est un beau regard, c'est-à-dire le regard qu'elle sait porter sur le monde et sur les autres. Et je pense que c'est ça, effectivement, la vraie beauté. La vraie beauté de notre être, elle n'est pas dans ce que nous montrons, dans notre paraître, dans ce que nous montrons aux autres, mais la vraie beauté d'un être, elle tient au regard que cet être a sur le monde. Et quand on a un beau regard sur le monde, eh bien, on devient beau, je le crois. Et ça, c'est ce que dit l'Évangile, justement. C'est ce que dit Jésus en Matthieu 6, 22, quand il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » C'est-à-dire que, justement, nous avons tendance à considérer que regarder les choses par rapport à ce qu'elles sont objectivement. Et donc je dirais, je suis éclairé, je suis illuminé, si j'ai des événements lumineux et beaux dans ma vie, si j'ai des belles choses, alors j'ai de la chance. Alors que l'Évangile dit que la lumière que l'on a, elle ne dépend pas tant des choses qui sont autour de nous, mais du regard qu'on a sur elle. C'est-à-dire que c'est à nous de faire en sorte de regarder les choses comme étant belles. Et si on a un regard lumineux sur le monde, alors la lumière est en nous et on devient soi-même lumineux. Et puisqu'on est dans les déclarations d'amour, c'est ce que l'on trouve aussi dans le Cantique des Cantiques, ce célèbre chant d'amour formidable qui se trouve dans l'Ancien Testament, où l'amoureux dit à son amoureuse « Tes yeux sont comme des colombes ». Voilà, c'est pour les jeunes, vous pouvez faire une déclaration d'amour à votre fiancée en lui disant « Tes yeux sont comme des colombes ». Je ne sais pas si elle comprendra ce que ça veut dire, mais pour moi, théologien, je comprends. Parce que la colombe, vous le savez, si vous êtes un petit peu en rapport avec les protestants, c'est ce qu'il y a sur nos croix huguenotes, la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit, c'est-à-dire de cette présence de Dieu qui descend du ciel vers la terre, de cette présence spirituelle qui vient nous rejoindre. Et d'avoir les yeux comme une colombe, c'est la plus belle chose que peut avoir un être humain, c'est-à-dire d'avoir sur le monde et sur les autres le même regard que celui que porte Dieu lui-même sur les autres. Autrement dit, Dieu, a priori, porte sur nous un regard plein de grâce. Enfin, c'est ce qu'enseigne Jésus dans l'Évangile. Et s'il a raison, et je le crois, c'est que Dieu a un regard de tendresse, d'amour et un regard positif sur nous. Et c'est ça la plus belle chose que nous pouvons avoir à notre tour, c'est d'avoir des yeux comme des colombes, c'est-à-dire de regarder le monde avec tendresse, avec amour et d'une façon positive. Et si on regarde l'autre comme une colombe, c'est-à-dire comme Dieu la regarderait, alors l'autre devient illuminé et transformé. Parce qu'en effet, je le crois, le regard que l'on porte sur le monde et sur les autres est plus important que la façon avec laquelle le monde nous regarde. Donc finalement, oui, Calvin avait raison. Léa avait certainement une beauté intérieure, spirituelle, qui était supérieure à celle de Rachel, et Jacob est tombé dans le piège. Mais en effet, dit-on, ça aussi c'est un verset que les enfants de l'école biblique apprennent par cœur, 1 Samuel 16, 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Donc Jacob a eu tort de préférer Rachel à Léa. Et puis, mais revenons à son histoire de regard. Ça m'interpelle, cette histoire de regard, parce qu'on dit que Rachel avait effectivement une beauté purement physique, contrairement à Léa qui avait des yeux, alors là, tout à l'heure, je vous ai traduit des yeux tendres. Mais le mot tendre n'est pas très facile à traduire, et là, les traducteurs partent dans tous les sens. En fait, le mot est assez facile à traduire. Tendre, ça veut dire tendre. Voilà, tendre comme un petit bébé, comme un agneau, comme un petit animal. Tendre comme la joue d'un enfant. C'est ça le mot tendre qu'il y a dans l'Ancien Testament. Rakote. Mais les traducteurs sont tellement omnubilés par l'idée que Rachel était belle et que Léa devait être moche qu'ils nous mettent sans arrêt des horreurs. Alors, j'ai fait un petit catalogue. Au lieu de mettre des yeux tendres, la traduction de la parole de vie, mais Léa avait des yeux sans expression, bon, très agréable. La Bible en français courant dit « elle avait un regard terne » et la traduction de Chouraki, « des yeux mous ». Bon, alors j'avoue que ce n'est pas très séduisant. Mais les autres traductions sont plutôt positives. La Seconde 21 dit « avait des yeux fragiles ». La Nouvelle Bible Seconde, « des yeux doux ». La traduction écuménique, « un regard tendre ». Et je vous le disais, le mot lui-même est très clair, ça veut dire tendre, souple, doux, comme un petit bébé. Tiens, ça m'intéresse pour la suite de l'histoire, parce que justement, elle a un regard qui, j'allais dire, qui sent l'enfant. Voilà. Et on va voir que c'est l'enjeu de tout le chapitre, la question de savoir laquelle aura des enfants, c'est-à-dire laquelle a une fécondité. Et donc, ça veut dire qu'il y a dans le regard de Léa, non seulement elle a un beau regard sur le monde, mais elle a un regard qui sent, qui est tendre comme celui d'un enfant. Et que la fécondité spirituelle, justement, la fécondité spirituelle, elle ne vient pas de notre propre beauté, ou de nos qualités personnelles, mais notre qualité, notre fécondité spirituelle, elle vient de la tendresse, de la douceur, de l'humilité avec laquelle on a un rapport au monde et de l'ouverture aux autres qui est justement le fait de regarder les autres. Parce que cette histoire de fécondité, oui, elle revient souvent dans la Bible. Et bien sûr, vous avez compris qu'il n'est pas simplement question d'avoir des enfants dans la chair, mais la question de la fécondité, c'est de savoir est-ce que notre vie est capable de transmettre, c'est-à-dire de donner quelque chose qui soit au-delà de nous-mêmes, de laisser quelque chose dans ce monde qui puisse grandir, qui puisse être positif et bon. Et donc la fécondité, c'est ça. Est-ce que notre vie n'est qu'un circuit fermé qui ne vit que pour soi-même et qui meurt pour soi-même? Ou est-ce que notre vie s'ouvre vers le don pour le monde et vers l'ouverture féconde pour le monde? Eh bien, l'enjeu de la fécondité, justement, il se trouve là. C'est que Léa, la moche physiquement, sera féconde, elle va avoir plein d'enfants, et Rachel, ça va être très compliqué, et elle va même se plaindre de ne pas en avoir. Parce que donc, vous disais-je, ce qui rend notre vie féconde, ce n'est pas le fait d'être nous-mêmes quelqu'un de formidable, je dirais d'être quelqu'un de beau, de grand, de fort, d'admirable, que tout le monde trouve extraordinaire. La fécondité de notre vie ne viendra pas de cela. La fécondité de notre vie, elle vient du regard que nous savons poser sur le monde. Et vous disais-je, d'un regard tendre, d'un regard doux, d'un regard comme un enfant, d'après le mot hébreu, c'est-à-dire de cette espèce d'humilité, justement, de tendresse et de douceur, et que c'est ça qui est fécond dans le monde, ça n'est pas ni la violence ni la brutalité. Et c'est d'ailleurs ce que nous affirmons au moment des rameaux, où justement les chrétiens célèbrent Jésus-Christ, leur roi qui rentre triomphalement à Jérusalem. Mais triomphalement, tu parles, il arrive sur un âne. Bon, ce qui n'est pas très glorieux, normalement un roi guerrier, il arrive sur un cheval fougueux, pas monté sur un âne, c'est ridicule. Et donc il vient avec une grande humilité, au pas d'un petit baudet qui avance à deux à l'heure, et tout le monde se fiche de lui, sauf quelques disciples qui disent « Hosanna au plus haut des cieux », mais la population elle-même s'en fiche. La preuve, c'est qu'une semaine après, ils vont le tuer. Et donc voilà, cette humilité essentielle, cette façon de regarder les autres même, parce que regarder les autres suppose une certaine humilité. Quand on a affaire à quelqu'un de très hautain, on dit « il ne me regarde même pas, il ne m'a même pas vu, il ne m'a pas regardé ». Regarder quelqu'un, c'est se mettre à son niveau. Et c'est peut-être cela que voulait dire Jésus dans les Béatitudes quand il dit « heureux ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre ». Alors ainsi, Léa donc va être la mère d'un bon nombre d'enfants, de Ruben, qui sera d'ailleurs le premier-né de Jacob, puis ensuite de Siméon, de Lévi, de Judas, d'Issacar et de Zébulon. Et Rachel, ça va être beaucoup plus compliqué. Elle n'aura en fin de compte, après tout un travail personnel, que deux enfants, Joseph et Benjamin. Alors cela dit, le plus important des enfants de Rachel, de Léa, pardon, ça va être Judas, c'est-à-dire qu'elle va avoir des enfants formidables. Judas, celui qui va donner son nom au royaume et même à tout le peuple. Aujourd'hui, on dit le judaïsme en référence à ce fils de Léa, ce fils de la moche rejeté. Judas sera l'ancêtre de David, et donc Judas va être l'ancêtre du Christ. Donc finalement, cette Léa que tout le monde rejetait, eh bien, elle est supérieure à Rachel, elle va être la mère du Messie, et même la mère du Christ et la mère du salut. Et puis, dans les fils que je vous ai cités, si vous avez fait attention, vous avez entendu que Léa est aussi la mère de Lévi. Lévi, la dynastie des prêtres. Et donc Léa est à l'origine de pratiquement tout le peuple d'Israël, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Ça n'est pas rien. Et puis Rachel, quand elle va mourir dans la suite de l'histoire, elle sera enterrée en passant. Ils sont en route, Rachel meurt, ben ça ne fait rien, on l'a enterrée là sur la route, quelque part, le chemin qui mène à Ephrata, c'est Genèse 35. Alors que Léa, quand elle va mourir, elle va être extrêmement honorée, puisqu'elle sera enterrée dans la grotte de Macpéla. où étaient enterrés Abraham, Sarah, Isaac et Rebecca. Et donc vous voyez, Léa sera féconde et finalement bien plus grande que Rachel, qui sera stérile. Et donc se pose là la question de savoir, par-delà le fait que l'on brille ou pas physiquement ou matériellement, à quoi nous mène notre vie. Alors Léa, elle est intelligente en plus d'avoir un beau regard, parce qu'elle se sait peu attirante, elle sait qu'elle n'est pas très belle et que son mari ne s'intéresse pas beaucoup à elle. Alors elle va chercher à attirer l'attention de Jacob en ayant des enfants, c'est-à-dire par sa descendance. Et là encore, je voudrais aller au-delà du phénomène purement biologique d'enfanter ou de ne pas enfanter, et de dire, finalement, peut-être que moi, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, et donc la question c'est, qu'est-ce que moi je peux laisser aux autres? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux transmettre, donner, porter un fruit de quelque chose? Et dès qu'on a ce regard sur le monde, de se dire, non pas par rapport à soi, mais par rapport à ce que l'on donne, par rapport à ce que l'on enfante dans le monde, spirituellement, alors on sort de soi, et on peut arriver à transmettre quelque chose d'extraordinaire. Alors que Rachel, elle est belle, elle se suffit à elle-même et elle ne se pose aucune question. Mais sa beauté ne lui mène à rien. Elle est limitée et ne mène à rien. Alors peut-être aussi, dirais-je, que ce regard dont je vous parlais, qui me semble la clé de l'affaire, ce regard est important, et même c'est peut-être aussi le regard de Jacob qui fait beaucoup. Parce que finalement, Jacob regarde Rachel comme un objet, et donc elle est un objet. Et Jacob regarde Léa comme une personne, c'est-à-dire puisqu'elle a un regard, et ça lui permet d'avoir la fécondité. C'est-à-dire que même le regard que nous avons sur les autres peut leur permettre finalement de faire quelque chose ou pas. Et que si nous avons un regard positif sur le monde, certes ça nous éclaire, mais le regard lumineux que nous pouvons avoir sur un être peut aussi transcender cet être, autrement dit. Et quand on regarde quelqu'un comme beau, comme positif, comme grand, cette personne pourra ainsi le devenir. Mais Rachel elle-même, donc, elle n'était pas très si formidable que ça. Certes, elle était jolie, mais le texte nous la montre. Jalouse de sa sœur, ça c'est pas bien, on l'explique aux enfants depuis qu'ils sont tout petits. Et puis elle réagit mal, elle s'énerve. Et puis après il y a une sombre histoire que je ne développerai pas trop. Dans le chapitre 30, j'ai dû m'arrêter avant, on nous dit que Rachel est jalouse de sa sœur et que du coup, elle vole les mandragores de Ruben. Ruben c'est le premier des fils de Léa. Et Rachel, furieuse pour se venger, va voler les mandragores de Ruben. Ça, c'est très grave. C'est très grave parce que là, il faut comprendre un peu le sens des mots. Personne ne comprend rien à ce texte et je vais vous l'expliquer. Mandragore, les mandragores en hébreu, ça se dit doudaïm. Et doudaïm en hébreu, ça se traduit par l'amour à deux. Voilà, dod, c'est l'amour et doudaïm, c'est la forme duel. Et donc, mandragore, ça veut dire l'amour à deux. Quand on dit que, j'ai peut-être l'esprit mal placé, quand on dit que Rachel vole l'amour à deux avec Ruben, je pense qu'elle a dû coucher avec lui, ce qui n'est pas bien. Ça veut dire que Rachel, non seulement elle est jalouse, elle s'énerve et tout, et qu'en plus elle est envieuse de la descendance de sa propre sœur et qu'elle est capable d'aller chercher à polluer la descendance de sa propre sœur. Elle est en colère d'être en stérile, elle en veut à Jacob. Et elle ne vit, vous voyez, elle vit tout cela négativement dans la destruction. C'est épouvantable. Donc vraiment, non, n'appelez jamais votre fille Rachel, s'il vous plaît. C'est pas le jour. Et autrement dit, elle voit les choses négativement. Et toute sa vie, Rachel va voir les choses négativement. Elle aura finalement un fils. Et elle va dire, bon, voilà mon fils, je vais l'appeler Ben-Oni. Ce qui veut dire fils de la souffrance. Agréable, le fils il doit être content, il s'appelle fils de la souffrance, très agréable. Et Jacob dit non, arrête ça, on va l'appeler Ben Yamin, c'est-à-dire fils de la droite, c'est-à-dire du bon côté. Donc Rachel est plutôt mal partie, mais cela dit, elle va se rattraper, parce qu'elle fait une chose bien, une seule. c'est que quand elle est en colère, elle va parler à Jacob. Elle va parler à Jacob, elle va s'énerver contre Jacob, mais elle va lui parler en disant « Donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. » Et ça, c'est bien parce que le fait qu'elle parle à Jacob fait qu'elle ne va pas le tuer. Caïn ne dit rien à Abel et il le tue. C'est-à-dire, c'est l'absence de parole qui amène au meurtre. Et j'avais un catéchumène qui fréquentait, malgré lui, les milieux assez difficiles de banlieue. Et je lui demandais comment il arrivait à survivre dans un milieu de violence permanent. Et il me disait, c'est facile, tant qu'on parle, il n'y a pas de violence. Et donc, il faut maintenir la parole, maintenir la parole, maintenir la parole, maintenir la parole. Et la violence arrive dès qu'il n'y a plus de parole. Et donc, ça, je crois que c'est vrai. Rachel, certes, s'énerve, mais elle va parler à Jacob. Et c'est le fait de parler qui va pouvoir débloquer l'affaire. Et d'autre part, elle va aussi reconnaître que son problème, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Je reviens à ma question de la fécondité. Elle se dit, ok, je suis belle, je suis formidable, etc. Mais finalement, ça m'apporte quoi si je suis incapable de transmettre à d'autres? Et elle dit, sinon, donne-moi un enfant, sinon je vais mourir. Ben oui, parce que vous pouvez être le phénix des autres de ces bois, ça ne vous empêchera pas de mourir. Notre seule forme d'éternité sur ce monde, c'est dans ce que nous transmettons aux autres. Donc là, Rachel, finalement, elle est très maligne et elle comprend quelque chose. Elle reconnaît son manque et elle parle. Ça va être le point de départ de tout. Et je crois que c'est pour ça que finalement, elle pourra quand même enfanter. Bon. Alors, la réaction de Jacob, vous l'avez entendu tout à l'heure, il refuse d'aider. Il dit, non, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Suis-je à la place de Dieu pour te donner des enfants? Jacob refuse d'aider, ce qui n'est pas très sympathique, mais en même temps, je pense qu'il a raison. Parce que, d'abord, il refuse d'endosser la responsabilité de cela. Et Rachel, certes, elle a raison de reconnaître qu'elle aurait besoin de transmettre, mais elle a tort en accusant Jacob. Ça aussi, c'est une erreur parce que, certes, il y a des problèmes dans notre vie et nous pouvons les résoudre le jour où on arrête d'accuser les autres. De dire pourquoi l'autre me fait ci et pourquoi c'est de la faute de un tel si j'ai des problèmes et c'est de la faute de machin si ça ne va pas. Toujours reporter la faute sur les autres. Et là, Jacob a raison en disant, écoute, je ne suis pas la cause de tes problèmes. La cause, elle est ailleurs. Ou en tout cas, la solution du problème, elle n'est pas dans l'autre. C'est pas en accusant l'un ou l'autre. Mais la solution du problème, c'est d'aller le chercher en Dieu qui, lui seul, est celui qui aide. Donc Jacob refuse de servir d'excuse au problème de Rachel. Et finalement, vous disais-je, Rachel finira par trouver une fécondité. Dieu va rendre Rachel féconde quand elle cessera de penser que sa beauté est tout, quand elle comprendra que l'important c'est ce qui vient d'elle et non pas ce qu'elle est en elle-même, quand elle comprend qu'elle toute seule, elle ne peut rien, et c'est finalement ce manque qui va lui donner la fécondité. Il faut aller au-delà de soi-même, ne plus se contenter de soi pour découvrir autre chose. Donc oui, peut-être que la clé de cette fécondité, c'est de reconnaître que l'on n'est pas autosuffisant, de savoir crier vers Dieu, de savoir que notre vie ne peut valoir quoi que ce soit par elle-même, mais seulement par la descendance spirituelle qu'elle peut avoir, et donc être disponible à Dieu qui lui donne cette fécondité, c'est-à-dire de s'ouvrir à lui, de cesser de vouloir faire tout seul sa vie, ne mène à rien. La fécondation par Dieu donne au contraire naissance à la vie. Et du coup, Léa, donc aujourd'hui j'aime bien, mais peut-être qu'une autre fois je défendrai Rachel, Léa va avoir d'abord 4 enfants qui sont tout un programme. Elle donne les noms à chaque fois et elle explique, vous savez, chaque nom a un sens. Le premier nom, Ruben, ça veut dire le fils du regard. Tiens, justement, voilà, pour ça que j'ai passé un peu de temps sur la question du regard. Ruben, l'aîné de Jacob, c'est le fils du regard. Siméon, c'est celui qui écoute. Autre beau programme, ça. Savoir regarder et savoir écouter. Ça, c'est la vraie fécondité de Léa. Lévi, ça veut dire l'attachement, celui qui s'attache, qui aime, quoi, autrement dit. Troisième clé importante de la vie, savoir regarder, écouter et savoir s'attacher. Et Judas, le quatrième enfant, Judas, ça veut dire rendre grâce, remercier. Ça aussi, c'est une chose importante, hein. On peut récriminer, on peut appeler beaucoup de choses, mais on peut effectivement rendre grâce. Et après, Léa va cesser d'avoir des enfants, et puis finalement, elle va en avoir encore deux autres, qui seront la réponse de Dieu. Donc, elle aura six enfants en tout. Le sixième, c'est Issachar. Ça veut dire, il donne une récompense. Donc, je crois qu'effectivement, la suite de ses quatre premiers fils, c'est une récompense. Donc, certes, on ne fait pas les choses pour avoir une récompense, mais celui qui est fidèle et fécond, il a vraiment quelque chose extraordinaire que Dieu lui donne. Et Zabulon, ça veut dire celui qui habite quelque part, celui qui est installé, celui qui est honoré, celui qui a une qualité et une vraie valeur, et c'est également ce que Dieu nous offre par grâce. Amen.